Chapitre 54. La controverse de l'orangerie. La chaleur sous les verrières de l'orangerie était étouffante, et les parfums d'agrumes enivrants. Les grands pots de terre cuite dans lesquels Vanille et Philao avaient planté des arbres fruitiers exotiques étaient rangés sur le côté pour laisser l'espace le plus libre possible. Les chaises étaient disposées en quatre cercles concentriques, de manière que chacun puisse voir et entendre tout le monde. Les orateurs qui souhaitaient s'exprimer devaient s'avancer au milieu du cercle, seuls ou à plusieurs. Vanille, pour le grand contrôle, avait brièvement rappelé les règles de la controverse. Chacun pourrait parler s'il le voulait. Aucune censure. Aucun argument n'était interdit. Et à l'issue de la discussion, quand plus personne ne souhaiterait prendre la parole, ou au plus tard à minuit, quand sonneraient les 12 coups du birthday, tous les ados répondraient par oui ou par non, par un vote à main levée, à cette simple question « Les enfants prématurés sont-ils des êtres humains normaux ?» Isalis fut la première à s'exprimer. On l'avait vu beaucoup converser avec Eugénor ces derniers jours. Le grand cerf l'avait désigné comme sa première et principale oratrice. La ministre du temps passé avait pour l'occasion enfilé une longue robe de velours rouge, très ample, dont les plis tombaient jusqu'à ses pieds. Le tissu semblait lourd, épais, presque impossible à supporter sous la verrière. Son habituel chignon était dissimulé sous une capuche du même rouge. « Je vais m'en tenir aux faits !» commença la ministre du temps passé. « Aux faits consignés dans le journal de bord de l'Albatros, les enfants prématurés sont nombreux, très nombreux, au moins plusieurs centaines, tout l'équipage de l'Albatros peut en témoigner. Mais combien sont-ils au total en dehors de Paris, je veux dire partout autour de nous ? Je vais prendre un exemple. Imaginez !» Elle prit le temps d'éponger son visage avec le revers de sa capuche rouge. « Imaginez, vous croisez une harde de 10 sangliers dans la forêt. Devez-vous en conclure qu'ils ne sont que 10 à la peupler, ou qu'au contraire, cette rencontre est la preuve qu'ils sont partout et qu'on peut multiplier leur nombre par 10, par 100, par 1000 ?»«
Simple supposition !»
cria Haussmann du fond de la salle. Le cartographe avait reçu lui aussi des consignes, de la part de ses amis Agnel et Solario, de faire durer le plus possible les débats. Déjà, dans les quatre rangées de chaises, les chuchotements couraient entre ceux persuadés qu'ils étaient entourés de milliers de prématurés prêts à les envahir, et ceux convaincus qu'il n'existait qu'une tribu lointaine, dans l'estuaire du fleuve, autour de la clinique des immortels.
« Je vais rappeler un autre fait !» continua Isalis sans changer de ton. Personne ne peut nier que ces enfants prématurés, aujourd'hui, sont incapables de lire, d'écrire ou de compter. Et nul n'est en mesure d'affirmer, à moins de faire preuve d'une mauvaise foi absolue, si cette incapacité est due à l'éducation qu'ils n'ont pas reçue ou à un défaut de leur cerveau.
Personne ne protesta cette fois. Isalis ne les avait pas habitués à de telles précautions oratoires. Elle marcha un peu au centre du cercle, tout sourire, avant de s'arrêter devant Alix.
« Donc !»
cria-t-elle tout à coup. Sa capuche tomba en arrière, découvrant des cheveux dégoulinants de transpiration.
« Donc, puisqu'on ignore et qu'on ignorera toujours si leur cerveau est complet, il serait stupide de considérer ces enfants prématurés comme nos égaux !»
Quelques scientifiques, Brazal, Liu et Haussmann, poussèrent des cris de protestation face à cette affirmation trop rapide. Mais Isali s'enchaînait déjà.
Mais, soyons clairs, messieurs les savants, le fait que ces enfants nous soient inférieurs, qu'ils souffrent d'atrophie cérébrale, de crétinisme, de débilité, je vous laisserai définir le nom de cette maladie originelle qui les caractérise, ne nous dispense en rien d'assumer notre responsabilité envers eux. Oui, je parle bien de notre responsabilité envers ces prématurés.
L'effet de surprise de ces derniers mots fonctionna. Une responsabilité envers ces prématurés? C'était bien ce qu'Isalis avait affirmé. Les chuchotements se turent immédiatement dans les rangées.
« J'ai entendu, poursuivit la ministre du temps passé, les arguments de ceux qui prétendent que ces enfants prématurés sont des enfants normaux et qu'il faudrait donc les laisser tranquilles, les laisser vivre comme ils le veulent avec leurs propres coutumes. J'ai écouté ceux qui affirment que donner des leçons à ces prématurés, ce serait faire preuve d'un sentiment de supériorité, J'ai entendu ces arguments et j'affirme que les appliquer, ce serait faire preuve de négligence et plus encore d'indifférence. » La ministre du temps passé fixa Alix droit dans les yeux. Tous les regards étaient tournés vers elle. Alix continua de sourire, de réajuster avec calme sa couronne sur sa tête, mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Elle devait quitter l'orangerie au plus vite, courir rejoindre Zizo pour fouiller avec lui l'appartement du roi. Mais comment faire, avec tous ses yeux braqués sur elle? Sans desserrer ses lèvres, elle murmura, comme une prière muette,
« À toi de jouer, Sabi. À toi de jouer, Sabi. »
Un thé glacé? Zizo tendit sa gourde isotherme aux deux gardes postés devant la chambre du roi.
« Non, merci, » fit Gulo-Gulo.
Gulo-Gulo pesait au moins 70 kilos. Zizo, s'il devait se battre avec lui, n'aurait aucune chance. À côté de lui, Florentine, la petite soldate aux cheveux courts, paraissait minuscule.
« Vous avez tort, » continua Zizo.
« Les savants inventent vraiment des trucs de dingue. Je trimballe cette bouteille depuis ce matin et on croirait qu'elle sort d'un bac de glace. »
Le soleil s'engouffrait à travers les fenêtres et inondait la galerie des glaces. Ses rayons se reflétaient dans les miroirs, dans chaque cristal des lustres, comme autant de soleils éparpillés décuplant la température. Gulo-Gulo transpirait. Florentine avait ouvert deux boutons de sa chemise.
« T'es pas à l'orangerie ?»
s'étonna Gulo.
« Pas plus que vous, » répondit Zizo.
« Nous, c'est pas pareil, on est de garde tout l'après-midi. Ordre du grand cerf. Il en faut bien qui s'y colle. Mais toi, c'est plutôt bizarre que t'y sois pas. »
Zizo se pinça les lèvres et sourit sans rien laisser paraître. Gulo-Gulo était un soldat dévoué qui avait pris goût à la vie de château. Il ne le laisserait pas passer. La peur de désobéir au grand cerf l'emporterait sur la solidarité entre anciens du tipi. Et il se montrait plus malin qu'il ne l'avait pensé. Florentine l'était sûrement encore beaucoup plus. Il allait devoir jouer serré. Il n'aurait qu'un seul coup à jouer.
« Pourquoi bizarre ?» s'étonna Zizo d'un air détaché. « Vous avez un avis, vous ? Moi, je ne sais pas quoi penser de tout ça. J'ai rien contre les prémats, mais de là à garder un étrangleur sous notre toit... »
Gulo-Gulo le dévisagea comme s'il ne faisait aucune confiance à Zizo et à ce qu'il venait de lui raconter. Peut-être les soldats de garde avaient-ils eu des consignes, avec une liste de noms dans le sien dont ils devaient se méfier.
« Ça ne me dit pas ce que tu fais là, » continua Gulo.
« J'ai rendez-vous avec le grand cerf, top secret. J'ai rien le droit de dire de plus. »
Cette fois, l'argument porta. Gulo-Gulo ne voulait pas d'ennui. Les secrets... il avait déjà donné. Alors, si ça concernait Augénor, il ne s'en mêlait pas.
« Ok, bah, attends-le dans la galerie. J'espère que t'as prévu de quoi manger, parce que s'il sort de l'orangerie à minuit... »
Zizo ne commenta pas. Ils restèrent debout tous les trois, sans parler, grillés par le soleil. Zizo se força à ne pas brusquer les choses, à attendre encore, même si le temps pressait. S'il allait trop vite... Gulo et Flo risquaient de se douter de quelque chose. Au bout de 10 minutes, il ouvrit sa gourde isotherme, la porta à ses lèvres et fit semblant d'en boire une pleine gorgée. Il s'essuya les lèvres.
« Vous êtes vraiment sûr que vous n'en voulez pas ?»
Gulo-Gulo secoua la tête négativement, malgré la sueur qui dégoulinait jusqu'à son cou de taureau. Si Gulo ressemblait à un bloc de rocher... Florentine, à côté de lui, paraissait liquéfiée de rester ainsi debout toute la journée et s'appuyait sur son élégant beau de bouleau blanc pour tenir en équilibre. Zizo n'insista pas et referma la gourde.
« C'est du thé à quoi ?»
finit par demander Flo. Elle avait dégrafé un troisième bouton de sa chemise.
« Mélange de réglisse et de pêche. Le meilleur en cas de canicule, d'après Honora. » Ça évite de tomber raide quand le soleil tape aussi fort que Mook sur un terrain de balle d'autruche.
Il n'avait rien laissé au hasard. Alix s'était renseignée auprès d'Honora. La réglisse était le parfum préféré de Flo, et la pêche, le fruit préféré de Gulo. Sans ajouter un mot, sans précipiter aucun de ses gestes, Zizo tendit à nouveau sa gourde, à Flo cette fois.
« T'es sûr ?» fit Florentine. « Je voudrais pas te priver !»
Ça va, c'est bon, je peux partager. Florentine sourit, tint son beau d'une seule main et attrapa la thermos de thé. Gulo-Gulo n'osa pas protester, mais restait sur ses gardes.
C'est le moment le plus important, pensa Zizo, celui où tout peut foirer.
Florentine but une pleine rasade de thé. Gulo-Gulo l'observa avec insistance, longuement. Rien ne se passait. Florentine n'avait pas l'air empoisonnée. Bien au contraire, la gorgée de thé lui avait donné un coup de fouet, elle qui s'endormait sur son beau la seconde d'avant.
Gulo-Gulo passa sa langue sur ses lèvres sèches. Un thé à la pêche, bien frais, alors qu'il faisait au moins 40 degrés dans la galerie.
Zizo récupérait déjà sa gourde, la refermait sans en proposer à nouveau à Gulo-Gulo, quand le garde au cou de taureau tendit lui aussi la main et demanda presque timidement
« Je peux en avoir aussi ?»
Zizo le gratifia d'un grand sourire complice. « Ouais, tu m'en laisses quand même !» Gulo-Gulo en but trois bonnes gorgées. Zizo se força encore à ne pas aller trop vite, à reboucher la thermos comme si de rien n'était, à attendre sans faire preuve de la moindre impatience, sans guetter trop visiblement les premiers signes de somnolence. L'effet était immédiat, avait garanti Valère. C'était soi-disant Lupo Nero qui lui avait fourni le mélange d'herbes, un bouquet très spécial qui aurait endormi un ours en moins de 10 minutes, et on pouvait faire confiance à Lupo pour ce genre de magie. Zizo l'espérait. Il avait fait infuser les herbes somnifères avec la réglisse et la pêche le matin même. Il n'y avait plus qu'à attendre. 10 minutes, au moins. Flo n'avait pas la carrure d'un ours, et d'ailleurs elle somnolait déjà, appuyée sur son beau. Gulo la regardait tanguer doucement.
« Eh oh, Florentine, ça ne va pas ?»
La garde ouvrit un œil vague, puis aussitôt sa paupière retomba, et elle s'appuya de nouveau sur son bâton, en équilibre précaire, tel un ado de corvée de balayage qui s'endort sur son balai. Gulo-Gulo lança vers elle un bras protecteur au cas où elle basculerait, tout en jetant un regard furieux à Zizo.
« Tu l'as drogué ? Tu nous as fait boire une saloperie de poison ?»
Zizo se recula d'un pas. Il pesta intérieurement contre sa stupidité. Il n'avait pas pensé que le somnifère de Lupo Nero agirait plus vite sur une petite ado fluette que sur une masse qui pesait le double d'elle. Si Gulo-Gulo se mettait à crier, donner l'alerte, tout était fichu. Déjà, Florentine basculait. Gulo-Gulo tenta d'avancer vers lui, mais Zizo s'aperçut que, même s'il était encore parfaitement réveillé, ses gestes étaient lents, son corps engourdi. Sans réfléchir, profitant de l'avantage, il attrapa le beau de Flo, alors que la garde endormie s'effondrait dans les bras de Gulo-Gulo, et assomma d'un solide coup de bâton le soldat.
« Désolé, mon vieux. »
Gulo-Gulo ronflait déjà, doublement terrassé par le somnifère et le coup de beau. Il ne restait plus à Zizo qu'elle est tirée à l'intérieur de la chambre du roi. Ce ne serait pas une partie de plaisir concernant Gulo-Gulo, et à attendre Alix en espérant qu'elle puisse s'échapper sans se faire remarquer.
« C'est quoi le plan ?»
Solario progressait en rampant, à côté d'Agnel et d'Akane. Ils avancèrent autant qu'ils le purent dans les herbes hautes. Ils prirent soin de rester cachés entre les pieds de bruyère, les pissenlits et les marguerites, et observèrent devant eux le belvédère et le pavillon du rocher. La petite maisonnette octogonale, appelée « pavillon du rocher », était dressée au milieu de la pelouse et fermée par une lourde porte de bois. D'après les historiens, elle servait jadis de salon de musique pour la reine Marie-Antoinette. Juste à côté, le grand rocher avait été construit pour imiter un décor de montagne. Les architectes avaient bâti une falaise artificielle d'une 15 mètres, creusé à son pied un lac miniature et un torrent, ainsi qu'une cascade pour l'alimenter, et une passerelle de bois pour l'enjamber. Des pins étaient plantés tout autour, pour renforcer l'illusion d'un paysage des Alpes que les ados ne connaissaient qu'à travers des livres et des photos. Akane chuchota en détaillant le pavillon.
« On fonce, on libère Pou, on le met à l'abri et on attend le résultat de la controverse de l'orangerie. »«
On fonce ?» s'inquiéta Solario. « Et tu fais quoi, des trois soldats ?»
Django, Idriss et Diana gardaient l'entrée du pavillon, visiblement sans redouter une quelconque attaque.
Ils s'étaient assis sur les marches de marbre devant la porte et avaient abandonné leur beau contre l'une des 8 façades blanches du pavillon. Akan s'était déjà à moitié relevé. À genoux, il était prêt à s'élancer à l'assaut.
« Les soldats ?» fit le géant. « On va leur demander gentiment de nous ouvrir la porte. »
Solario allait protester, mais Agnel l'attrapa par la manche et lui fit signe de se taire. Inutile de discuter, Akan avait déjà bondi hors des herbes hautes. Les deux ministres n'eurent pas d'autre choix que de lui emboîter le pas. En 10 enjambées, le secrétaire général de la paix se retrouva devant le pavillon. Les 3 gardes réagirent aussitôt, saisirent leurs baux et se positionnèrent en triangle, Diana devant, Idriss et Django derrière elle.
« Ne bouge pas, Akan !»
fit Diana en tremblant. Diana était une ado bagarreuse. Plus d'une fois, après une dispute, Akan avait dû intervenir et lui faire présenter des excuses.
« D'accord, »
répondit le géant en défiant les 3 soldats du regard.
« Je ne bouge pas. »
Il tendit sa main.
« Je veux juste les clés du pavillon. On est venu chercher l'enfant prématuré. »«
Tu... »
bafouilla Diana.
« Tu sais bien que c'est pas possible. Il a été condamné. »
« Eh bien, nous, on vient le gracier. »
Diana tremblait toujours. Idriss et Django, derrière elle, s'accrochaient à leur beau. Si jamais le géant faisait un pas de plus...
« Donne-moi les clés, Diana !» ordonna Akan en haussant la voix. « Écarte-toi !»
Diana et Idriss paraissaient tétanisés. Le visage de Django, à l'inverse, se fendait d'un sourire de défi. Il était connu pour être l'un des rares ados du château à savoir à peine lire.
« On ne reçoit d'ordre que de Jean d'Arc et du Grand Cerf »
lança-t-il en se redressant fièrement.
« Tu te prends pour qui, le gorille ?»
Le gorille ? C'était bien ce qu'ils avaient entendu ? Agnel et Solario adressèrent un regard désolé au soldat pour lui faire comprendre qu'il aurait mieux fait de se taire. En un éclair, Akan fondit sur Django, lui arracha le beau des mains et le cassa en deux, obtenant ainsi 2 longues armes aiguisées. Un pas de plus. Il désarma Idriss et Diana d'un double coup d'épée, faisant voler leur beau à plus de 5 mètres. Puis, il pointa ses 2 bâtons fendus en biseau sur la gorge de chacun des 2 gardes.
« Et moi ?» souffla le géant. « Je prends mes ordres de Sa Majesté Alix, légitimement élu par nos 2 tribus. »
Solario s'avança à son tour. Il ouvrit les bras en signe de conciliation et s'adressa aux gardes.
« Allez, vous nous donnez les clés et on n'en parle plus. Vous pourrez même aller assister à la fin de la controverse, ça vous instruira. »
Idriss continuait de trembler comme une girouette en plein vent. Django roulait des yeux exorbités et se retenait presque de respirer, convaincu que l'ado qu'il avait traité de gorille lui trancherait le cou au moindre mouvement. Seule Diana semblait encore capable d'articuler quelques mots.
« On ne les a pas. C'est Jeanne d'Arc qui les garde. Elles sont dans sa poche. T'as qu'à aller les chercher à l'orangerie. »
À son tour, elle adressa à Akan un regard de défi. Agnel et Solario fouillèrent les 3 gardes pour vérifier. Diana disait vrai. Ils ne trouvèrent aucune clé.
« Il y a forcément un double, non ?»«
Bah non !»
cracha Diana avec un petit ricanement.
« Il n'y en a pas !»
Agnel, Solario et Akan observèrent en détail la lourde porte de bois du pavillon du rocher. Elle était trop épaisse pour être enfoncée. Sans clé, il était impossible d'y entrer et de libérer Pou. Akan planta encore un peu plus la pointe de son bâton dans la gorge de Django.
« Tu sais, les gorilles ne mangent que des fruits. Mais moi, je suis pas un gorille. Je suis un méchant cannibale. Tu sais ce qu'est un cannibale ? C'est un enfant qui mange les autres enfants. »
Django sautillait d'une jambe sur l'autre, terrifié, persuadé qu'Akan allait l'embrocher pour le faire griller.
« Il... »
annonna-t-il presque sans remuer les lèvres, en essayant de faire vibrer sa gorge le moins possible.
« Il y a un double des clés accroché dans la salle des gardes du Grand Trianon, mais elle aussi est fermée. »
« Et qui les a, les clés de la salle des gardes du Grand Trianon ?»«
Jeanne d'Arc, dans sa poche, sur le même trousseau. »